vacances full Dutch.
Ils font beaucoup d'allemand et un peu de français. Et nous, on fait beaucoup de français et un peu d'allemand.
Avec ces systèmes, on va avoir des sociétés parallèles. On aura une fragmentation de l'école publique et on ne mènera plus que des vies parallèles.
Je pense qu'il est bien pire de faire des ghettos d'échecs scolaires que des ghettos entre guillemets francophones.
En automne 2022, 11 enfants ont commencé à apprendre à lire et à écrire en français à l'école Nellystein de Schifflange. Ce n'est pas la première tentative de ce genre. Dans les années 70 déjà, on expérimentait avec l'alphabétisation en français. Je vous en ai parlé dans le deuxième épisode de ce podcast. Cette fois, l'approche est différente à bien des égards, le contexte aussi. À l'époque, il n'y avait par exemple pas d'école internationale publique qui mettait la pression sur le système scolaire traditionnel. Mais cela signifie-t-il que le projet pourrait avoir plus de succès cette fois-ci? C'est la question centrale de cet épisode. Mon nom est Pia Oppel, je suis journaliste pour Radio 100.7. Dans ce podcast, je vous raconte l'histoire d'un mauvais élève. Il s'agit de notre système scolaire qui se démarque peu en comparaison avec les équivalents internationaux. Un système scolaire dans lequel on essaye encore et toujours de faire échouer moins d'enfants. Un petit rappel, cette série en 6 épisodes a été publiée dans sa version luxembourgeoise en 2022. Mauvais élève, un podcast Radio 100.7, épisode 4, en français s'il te plaît. Pour Sarah Scholtes, tout a commencé par un appel. En mars 2022, juste avant les vacances de Pâques, le directeur régional de son école est au téléphone et lui demande si elle est prête à participer à un projet pilote en septembre.
J'ai été très surprise au début, je ne veux pas le cacher, et je n'ai pas dit oui tout de suite.
Pourtant, l'idée n'avait rien de nouveau pour Sarah Scholtes. En 2019, l'enseignante avait elle-même posé la question s'il ne fallait pas proposer une alphabétisation en français à son école.
Et j'ai demandé à la direction de l'époque si c'était une possibilité d'essayer ça et élaborer un concept. Mais j'ai reçu un non clair et net.
Mais maintenant, c'est oui. Sarah Scholtes a 2 jours pour se décider. Il est vrai qu'elle a déjà assez de projets. À côté de son métier d'enseignante, Sarah Scholtes est en train de suivre une formation en gestion scolaire. En plus, elle ne sait pas combien de temps sera nécessaire pour le changement de l'allemand vers le français.
Je travaille depuis 15 ans, dont 9 ans au cycle 2. Ça crée des automatismes, des routines. Et je dispose tout simplement d'un tas de matériel. Donc mes armoires sont remplies de matériel pour alphabétiser en allemand. Je me suis finalement dit qu'on en avait déjà parlé pendant si longtemps et qu'on se plaignait du fait que l'allemand ne puisse plus être la seule option. Et d'une certaine manière, je me suis dit que si personne ne se lançait dans un essai, on n'aurait pas non plus l'occasion d'en dégager une expertise.
Sarah Scholtes se jette donc dans l'eau glacée.
Aujourd'hui, nous sommes...
Vendredi
14 octobre. Et demain, nous serons...
Donc tout d'un coup, on m'a dit, voilà, Madame Scholtes fait ça. Et c'est comme ça à présent. Et bien sûr, l'impact sur l'école est énorme. Il y a eu des doutes, il y a aussi eu des critiques.
Mais Sarah Scholtes n'a pas l'air d'une personne qui se laisse rapidement dérouter. Elle sait prendre sa classe en main si bien que d'autres enseignants envoient parfois les élèves plus turbulents dans son cours pour quelques heures. Et donc, elle décide de prendre en main le projet pilote aussi rapidement que possible. Avant les vacances d'été, elle va visiter 2 écoles publiques internationales, car depuis quelques années déjà, des enfants qui, auparavant, étaient souvent dans une Spielschule luxembourgeoise, y sont alphabétisés en français.
C'était l'une de mes premières questions. Est-ce que quelqu'un peut nous aider, puisqu'il y a des écoles européennes et internationales dans notre pays? Quand on lance un tel projet pilote, on doit pouvoir compter sur cette expérience. Et il était évident qu'il fallait travailler avec différents.
Petit escargot porte sur son dos.
Je suis Laetitia Maillard, je suis enseignante de formation
Et à l'EIDE, donc, je suis attachée à la direction et coordinatrice du primaire sur le site du Differdange.
EIDE, c'est l'École internationale de Differdange et Esch que vous avez rencontrée dans l'épisode précédent.
Et donc ma mission est donc d'accompagner le projet au sens large et en particulier à l'école de Chifflange. Donc là, il y a vraiment un accompagnement pédagogique, c'est-à-dire que j'ai partagé en fait les documents, les supports, les méthodes que moi j'utilisais.
Quelqu'un a envie de faire le chef d'orchestre? Qui n'a pas encore fait?
Alors,
je vais faire Amstramgram. Amstramgram, pique et pique et collégram, Amstramgram. Ça va.
Lorsque je suis présente, j'essaye de prendre la classe parce que je me dis c'est un apport au niveau de la langue, de la culture. Voilà, c'est quand même ma langue maternelle, c'est ma culture. Donc j'apporte aussi beaucoup de bagages culturels, les histoires, les comptines, les chants, etc. C'est beaucoup plus facile pour moi, évidemment. Et c'est aussi ça que je veux partager avec Sarah parce qu'elle est pédagogue, elle est enseignante. Donc les méthodes d'enseignement, je dirais qu'elles sont indépendantes de la langue. Après, les supports sont différents, évidemment, et la langue dans laquelle on s'exprime est différente.
Au début, ça m'a vraiment rassurée quand elle était là. C'est exactement ce dont on avait besoin. À un moment donné, je pense que ce sera moins nécessaire, mais pour le moment, cet échange est extrêmement utile. Sarah Scholtes avait deux conditions pour participer au projet. L'aide extérieure est une chose et l'autre était que je voulais avoir un mot à dire sur qui participe dans l'équipe. Je pense qu'un tel projet pilote ne peut fonctionner que si une bonne équipe travaille ensemble. Cela semble être une demande banale, mais ce n'est pas le cas dans le système scolaire luxembourgeois. Je vais ouvrir une brève parenthèse ici. La question centrale qui se pose ici est la suivante. Qui décide quel enseignant prend en charge quelle classe et quelle matière dans quelle école? En bref, la réponse est les enseignants eux-mêmes. Les règles peuvent varier d'une commune à l'autre, mais le principe reste le même. Celui qui a le plus d'ancienneté dans le métier a le droit de faire son choix en premier. En fait, ce changement de poste, c'est compliqué. Ça inquiète toujours les enseignants. Le choix se fait en mai, juin, et à partir du deuxième trimestre, on remarque déjà que certaines personnes deviennent nerveuses parce qu'elles ont peur de perdre leur place dans l'équipe. Pour moi, il est important que les gens qui travaillent bien et qui sont motivés puissent continuer à faire leur travail dans l'équipe, puisqu'on est en train de construire quelque chose. Un risque bien connu du système de l'ancienneté est que les enseignants ayant le moins d'expérience professionnelle se retrouvent souvent avec les postes les plus difficiles.
Je pense qu'on a tous déjà fait face à ça. Je pense qu'on doit toujours se demander pour qui on travaille réellement. On est censé travailler dans l'intérêt des enfants. Ça commence avec le choix de la classe et ça continue avec le planning des heures de cours. Je pense que dans la plupart des écoles du pays, on continue à tenir à notre système d'ancienneté. À mon avis, c'est tout simplement dépassé. Il nous faudrait un changement qui serait dans l'intérêt des équipes et des écoles.
À Chifflange, c'est le directeur régional qui a le dernier mot. Ici, la motivation et les compétences des enseignants sont décisives, et pas l'ancienneté. L'une des vaches sacrées que défendent les syndicats d'enseignants dans le système scolaire a donc été abattue dans ce cas. Retournons au cours de français où les élèves sont en train de chercher la lettre A dans leur nouveau cahier. Quelle est la signification de ce qui commence aujourd'hui?
C'est le tout premier son qu'ils apprennent. C'est-à-dire qu'on a surtout travaillé la conscience phonologique ces dernières semaines. Un peu plus simplement, quel mot correspond à quelle lettre? Et aujourd'hui, le premier son, le A.
C'était un moment historique, non?
N'est-ce pas? Mais en fait, oui.
J'ai dit aux enfants qu'ils étaient les stars du Luxembourg. Et c'est, ouais, c'est la preuve que c'est possible, parce que nous, on a le même public que Chifflange ou qu'une autre école, de toute façon, chez nous, hein, Differdange. C'est pas forcément des enfants français, tu vois.
À Chifflange non plus, l'alphabétisation en français n'est pas réservée aux enfants qui parlent déjà parfaitement le français. Effectivement, il n'y a que 2 enfants francophones dans le projet pilote. Une élève parle arabe, 8 élèves sont lusophones, leurs parents sont originaires du Portugal, du Brésil et du Cap-Vert. La plupart des élèves ne connaissent pas encore très bien le français. J'ai remarqué cela pour la première fois en parlant de football avec 2 élèves, Samuel et Santiago.
Est-ce qu'on a juste un français? On apprend à jouer au foot. On apprend à jouer au foot vestal.
Santiago n'aime pas qu'on lui dise qu'il a encore des choses à apprendre pour jouer au foot. Mais quand Sarah Scholtes lui demande de parler en français, il est moins sûr de lui.
Allez, nous comptons ensemble. Viens près de moi. Ceux qui portent une casquette. En français, s'il te plaît.
1, 2, 3, 4, 5.
Le choix des élèves qui peuvent participer au projet pilote a été fait par l'école. Ce ne sont pas toutes les familles qui ont été invitées à participer. Bien que peu d'enfants à Chifflange parlent luxembourgeois ou l'allemand chez eux, le directeur régional et les enseignants de la Spielschule ont examiné les compétences linguistiques et l'environnement linguistique de chaque enfant. Et comme l'explique Sarah Scholtes, une des questions était par exemple
« Quelle est la langue d'intégration des parents? Est-ce que c'est le français? Est-ce que les parents pourraient mieux se débrouiller en français et soutenir davantage leurs enfants dans leurs études ?»
En octobre 2022, donc un mois après le début du projet, Sarah Scholtes a en tout cas l'impression que le choix du français pour les 11 élèves de sa classe est le bon.
Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Après ces dernières semaines, je dois dire que j'ai l'impression de parler beaucoup plus français en classe que je ne parlais allemand en classe auparavant, parce que la plupart des enfants comprennent déjà énormément.
À l'école Nalistein, il y a 2 premières années d'école fondamentale pour la rentrée 2022. Une est alphabétisée en français, l'autre en allemand.
Ils font beaucoup d'allemand et un peu de français. Et nous, on fait beaucoup de français et un peu d'allemand.
Tu trouves ça bien ?
Oui.
Et Julio trouve qu'il y a une autre différence entre les 2 classes.
Nous, on travaille et eux, ils ne font rien.
Pourtant, Julio sait très bien que les élèves de la classe parallèle font à peu près la même chose que lui la plupart du temps. En effet, les enfants des 2 classes sont mélangés dans les matières secondaires. Le but est d'éviter une séparation complète entre les 2 filières linguistiques. Et la langue d'enseignement des matières communes est le luxembourgeois. Même en cours de codage, où les enfants sont censés apprendre à penser stratégiquement grâce aux briques Lego.
À la fin, ils ont fait ce que je vous avais montré. J'ai dit, vous pouvez aller encore plus haut, tout simplement en retournant une brique. Et vous auriez même pu oser en retourner une autre. Oui, je pense effectivement qu'au moins officiellement, on parle plus luxembourgeois qu'avant. Et pendant les premières semaines, je trouve ça très bien quand le groupe est mélangé parce que tous les jours, ils se racontent les uns les autres ce qu'ils ont fait pendant la journée. Et du coup, on a cette langue commune.
Il s'agit donc d'une approche différente de celle utilisée dans les années 70 par Edith Jacobs et Karin Elsen. Vous vous souvenez peut-être de cette constatation dans le 2e épisode.
Le seul inconvénient pour moi, c'est qu'ils n'ont pas appris le luxembourgeois. C'était le côté négatif.
Mais une question me semble toujours source de confusion. Dans les années 70, les enfants devaient quitter les classes françaises pour retourner dans le système normal en 4e année d'école primaire. Ce qui n'a pas fonctionné.
Oui, pour les Français, c'était bien. Mais pour une intégration ultérieure dans une classe normale, là, leur niveau d'allemand n'était pas suffisant.
Aujourd'hui encore, cela reste un point sensible. Quel est le niveau d'allemand que les enfants de la branche française doivent atteindre à la fin de l'école fondamentale ? Une langue qu'ils apprennent dès la première année d'école primaire et qu'ils seront en mesure de maîtriser suffisamment bien pour ensuite être admis au lycée, selon le ministère de l'Éducation.
Pour le cycle 4-2, ils sont censés être au même niveau. Il reste à voir si ce sera le cas, mais la question est aussi la suivante. Est-ce que c'est le cas dans le système qu'on a actuellement ?
Sarah Scholtes fait référence ici au fait que dans le système actuel, on suppose que les enfants obtiennent de meilleures compétences en allemand qu'en français à la fin de l'école fondamentale. Dans la classe pilote, cette hiérarchie est inversée. Mais quel écart peut-il exister entre les deux langues pour qu'il n'y ait pas de problème au lycée ?
C'est donc l'une des questions à résoudre à l'avenir.
Ce dont j'ai discuté avec ma femme, et c'est toujours le nerf de la guerre pour nous, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer après.
Voici Marcio, c'est le père de Samuel que nous avons rencontré brièvement quand il a parlé de son club de foot. Marcio est né au Luxembourg, ses parents viennent du Portugal. Il a fait des études d'économie et travaille dans une banque. Lui-même était très bon élève jusqu'à ce qu'il entre au lycée.
Je pense que je n'ai eu qu'une seule année où je n'ai pas dû compenser l'allemand ou écrire des épreuves de rattrapage. C'était vraiment pénalisant. Une fois que la plupart des matières sont passées au français les dernières années, mes notes sont redevenues plutôt formidables.
La femme de Marcio est belge. À la maison, les deux parents parlent français avec leurs trois enfants. Et quand l'école a proposé à Samuel d'apprendre à lire et à écrire en français, Marcio était ravi.
Parce que je dis depuis des années qu'on doit adapter le système à la réalité des habitants du Luxembourg.
Il a néanmoins besoin de 2 semaines avec sa femme pour prendre une décision. Et à ce jour, il reste des doutes. Marcio craint que Samuel ne maîtrise pas assez bien l'allemand à la fin de l'école fondamentale et que, puis au lycée, son fils soit face à des difficultés encore plus grandes que lui-même à l'époque.
Quel lycée garantit la continuité de cette approche pour que les enfants puissent ensuite passer en 7e et suivre leur matière secondaire en français ? À ce que je sache, à l'heure actuelle, l'offre n'est pas vraiment pléthorique.
Samuel, comme son père avant lui, est un bon élève. Et Marcio suppose que plus tard, Samuel ira dans un lycée classique. Pour l'école Nelly Stein, c'est plutôt l'exception que la règle. En 2021, par exemple, seulement 16% des élèves de cette école ont été orientés vers le classique. Ce n'est même pas la moitié de la moyenne nationale. Quel est le succès du projet pour vous ?
Je pense que l'objectif d'un cycle 2, c'est que les enfants en sortent alphabétisés. Nous avons réussi en allemand, je pense qu'on va aussi réussir en français. C'est clairement une partie du succès.
Sarah Scholtes est convaincue que ce projet peut améliorer la motivation et les performances scolaires des enfants, ce qui, après, pourrait aussi faire une différence dans l'orientation vers l'enseignement secondaire. Un autre succès du projet serait donc aussi
qu'on envoie tout simplement moins d'enfants dans la voie préparatoire à cause du contexte linguistique. Je pense qu'on doit être conscient du fait que ce projet ne fera pas de miracle, ce n'est pas la panacée, mais je pense qu'on peut enlever un obstacle sur le chemin des enfants.
Quels sont les plans pour le futur ?
J'espère que ça va continuer, que ce projet va s'établir pour de bon, parce que je pense qu'en termes d'opportunités, ça rend le système scolaire luxembourgeois tout simplement plus juste pour nos enfants. Je suis toujours convaincue que ces deux possibilités doivent coexister pour que les gens aient le choix. Mais oui, j'espère que ce ne sera pas seulement le cas pour ces 4 écoles. J'espère simplement qu'on pourra aller beaucoup plus loin. Mais ça ne dépend pas seulement de nous. Je pense que ça doit venir d'en haut.
Trois autres écoles participent au projet à Oberkorn, Dudelange et à La Rochette. Cela reste cependant un projet pilote qui peut aussi être arrêté. Son avenir dépend de décisions politiques. En 1983, il y a déjà eu un grand débat à la Chambre à propos des inégalités des langues à l'école. J'en ai parlé dans le 2e épisode. La rapportrice était la députée de CSV, Erna Hennico. Voici un extrait de son discours à l'époque.
Même si à première vue et sur un plan purement scolaire, cette solution semble présenter des avantages indéniables au profit des enfants étrangers. À y voir plus près, elle recèle de nombreux désavantages du point de vue de l'organisation scolaire et surtout du point de vue du brassage social. la création d'une filière francophone dès la première scolarisation aurait rapidement comme conséquence la naissance de deux écoles.
Pour la plupart des partis politiques, l'alphabétisation en français était à l'époque équivalente à une ghettoisation. Mais tout le monde ne voyait pas les choses de cette façon. L'inspecteur général des écoles primaires a objecté « Mieux vaut deux filières à l'école primaire et donc plus de chances d'éducation pour tous les enfants, donc moins de ségrégation sociale ensuite au lycée ». Laetitia Maillard, l'enseignante de l'EIDE, qui accompagne le projet à Chifflanche, argumente aujourd'hui de manière très similaire.
Je pense qu'il est bien pire de faire des ghettos d'échecs scolaires que des ghettos entre guillemets francophones.
En 83, cet argument n'a convaincu presque personne. Aujourd'hui, c'est différent. Il est partagé en grande partie.
Hi, Sansen.
Klosna.
Gilles Baum. Good morning.
Ja, hallo, c'est Cathy.
Ja, bonjour, je suis de l'Orchie.
Saint Clément, good morning.
Hello, hi, Scott, good morning.
Bonjour, je voulais vous parler de l'alphabétisation. L'ADR est aujourd'hui le seul parti à la Chambre des députés qui s'oppose fondamentalement à une alphabétisation en français. L'argument de Fred Kolb est le même que celui que nous connaissons depuis les années 80.
Pour notre société, c'est une catastrophe. Particulièrement aussi au Luxembourg, où on doit serrer les coudes d'une manière ou d'une autre. Avec ce système, on aura des sociétés parallèles. On aura une fragmentation de l'école publique et on ne mènera plus que des vies parallèles.
Tous les autres partis ont soutenu le projet pilote quand je leur ai posé la question il y a 2 ans. Ils pensent qu'il est possible de réunir les enfants au quotidien. Le luxembourgeois n'est pas considéré comme une langue d'intégration en danger et il y a un large consensus sur le fait que quelque chose doit être fait pour rendre le système scolaire plus juste. Doit-on donc donner le choix à plus d'enfants d'apprendre à lire et à écrire en allemand ou en français ? Le parti Die Linke, à l'époque, disait que oui. Les autres ne voulaient pas encore s'engager.
Je pense aussi qu'on devait vraiment attendre les résultats pour voir ce que cela apportera.
Voici Gilles Baum du DP. Sven Clement des Pirates voudrait
qu'on évalue cela dans le cadre d'une politique fondée sur des preuves et pour ensuite en tirer la bonne leçon.
Francine Klosna du LSAP est du même avis.
Et si cela fonctionne bien, pourquoi ne pas le généraliser? Je n'y vois pas de problème. Si suffisamment d'enseignants sont prêts à le faire, si on a suffisamment d'enseignants.
Et Martin Hansen du CSV le formule ainsi.
On doit s'assurer de parvenir à avoir l'égalité des chances parce qu'on se débrouille moins bien que tous les autres pays. Et si cela signifie que ces enfants auront de meilleures chances d'apprendre le métier de leur choix dans leur vie, mais alors il faut le faire.
Une évaluation scientifique du projet est en cours. Et après les élections législatives d'octobre 2023 et le changement de la majorité gouvernementale, il y a toujours un consensus politique selon lequel une telle analyse est nécessaire avant de continuer. La nouvelle coalition du CSV et du DP veut tirer ses conclusions au plus tôt l'année prochaine. Et c'est au plus tôt l'année suivante, en 2026, que l'alphabétisation française pourrait être proposée dans tout le pays selon le programme gouvernemental. Mais ce qui est clair, c'est que cette décision ne dépend pas seulement de critères scientifiques.
C'est de la prudence dans le but de ne pas diviser la société, afin de rassembler le plus de gens possible dans cette discussion.
Si le plus de gens possible doivent être d'accord, comme l'a formulé l'ancienne députée des Verts, José Lorcher, en 2022, alors il faut aussi s'intéresser à l'avis de ceux qui, a priori, ne sont pas concernés par le problème. Un coup d'œil sur le rapport national sur l'éducation montre que l'on trouve beaucoup de ces personnes dans la ceinture dorée autour de la ville de Luxembourg. Et dans l'épisode suivant, mon collègue Pierre Island va vous amener dans une de ces communes aisées.
Comment décrire l'école fondamentale de Kehlen? Je pense qu'elle a une assez bonne réputation. Je dirais que nous avons de bons enseignants ici. Cette école est vraiment super. On devrait aussi demander aux enfants, mais c'est ce que vous faites. À mon avis, les enfants, en général, aiment aller à l'école ici.
Ja, hallo.
Yo, bonjour, c'est Pierre de Radio 100.7. Donc, si j'ai bien compris, votre fille Stéphanie n'est plus à l'école fondamentale de Kehlen. Alors, où est-elle maintenant?
Moi, Mauvais élève, un podcast Radio 100.7, recherche et rédaction Pia Oppel et Pierre Ryland, avec la participation de Tessie Treus, Jean-Claude Frank, Rick Mertens, Chris Zion, Zeme Demic et Marie Trussard. Son et arrangements musicaux, Chris Simon, coordination Yves Stefani, traduction Philippe von Leipzig. Notre musique de titre, le Gassenhauer de l'Orff Schulwerk, a été enregistrée sous la direction de Laurent Varnier par les élèves du Conservatoire de la ville de Luxembourg. Merci à Joé Alf, Constantin Barburavou, Mike Kellnen, Felix Dunkel, Laurie Krier, Inamola Kava, Lola Schleicher, Julian Zeredinski, Yushan Lulupang, Louis Thiel et Eloise Twimumu.